Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Libre pour apprendre. Je suis Gypsy Nussbaum. Je suis enseignante, facilitatrice dans une école qui laisse la liberté de choix des apprentissages aux enfants. Et aujourd'hui, je vous parle de l'accompagnement des enfants, comment se comportent les adultes avec les enfants pour qu'ils apprennent à s'autonomiser. Je vous en parle dans un cadre naturel. Vous entendrez certainement des chants d'oiseaux et des bruits de forêt qui nous accompagnent durant tout ce podcast. Alors, pour les apprentissages libres, qu'est-ce qui est important du point de vue de l'adulte pour l'accompagnement des enfants? Alors, il s'agit de vraiment soutenir l'enfant à aller au plus proche de ce qu'il souhaite faire, de ce qu'il souhaite expérimenter ou du projet dans lequel il souhaite s'investir. Et pour ça, il s'agit aussi de les amener à l'autonomie. L'autonomie n'étant pas le fait de réaliser les choses tout seul, sans aucune aide. Là, il s'agit d'indépendance, c'est-à-dire de pouvoir vraiment faire du début jusqu'à la fin, toutes les choses toutes seules, tout seul. Et en fait, ce n'est pas une réalité de la société. Personne n'est capable de savoir se guérir en cas de maladie, ainsi que de réparer sa voiture de A à Z, de connaître toutes les lois en cas de problème. Voilà, chacun a son domaine de compétences. Et d'être autonome, c'est de savoir activer autour de soi les forces pour réaliser ce dont on a envie et aussi pour pouvoir nous-mêmes apprendre à travers différents supports, différents moyens, ce qui nous est important d'apprendre pour réaliser un projet. Alors dans ce cadre-là, l'adulte, on va souvent passer beaucoup de temps à observer l'enfant, à regarder ce qu'il fait, quelles sont ses activités. On va vraiment essayer de comprendre ce qu'il apprend à travers le jeu qu'il est en train de faire ou les discussions qu'il est en train d'avoir ou la façon dont il s'approche d'un groupe ou d'une personne. Certains ont des compétences à acquérir au niveau de vivre ensemble, au niveau de l'être avec les autres, de savoir prendre sa place, faire sa place, mais de la faire correctement, d'arriver au milieu du groupe correctement pour pouvoir être entendu, respecté, pris en compte. Et des fois, rien que de voir des jeunes, des ados ou des tout petits qui s'approchent d'un groupe ou qui tournent en rond puis qui ne savent pas comment s'approcher d'un groupe, c'est déjà des fois intéressant de juste les laisser un petit peu observer ce qu'ils font, regarder, observer aussi comment eux, ils observent le groupe, pour comprendre par quels moyens ils peuvent entrer dans ce groupe, pour s'approcher, voir s'ils apprennent des compétences pour pouvoir s'en approcher de plus en plus et pouvoir de plus en plus s'activer avec eux en fait. Donc c'est vraiment déjà une première observation qu'on peut faire, surtout pour des tout petits. On peut aussi observer les tout petits dans leurs activités du quotidien et puis voir ce qu'ils apprennent déjà comme capacité, comme compétence, comme domaine disciplinaire, on appelle ça au niveau du plan d'études romance qui correspond au socle des compétences en France, c'est-à-dire tous ces domaines disciplinaires que sont les mathématiques, le français, les langues, la géographie, l'histoire, mais aussi les travaux manuels, les arts et tout ce qui est sport aussi. Donc, dans le quotidien, il y a déjà plein de choses qui vont se passer où ils vont pouvoir apprendre. Souvent, ils vont faire des jeux, essayer de comprendre une règle de jeu qu'explique un camarade ou alors de demander à un adulte de la lire. Donc tout ça, c'est déjà une observation fine que l'on peut faire pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en pratique en fait, dans ces apprentissages et d'utiliser et de construire. Ils apprennent aussi à compter souvent en faisant des jeux dans lesquels il y a des fois des cartes avec des chiffres, savoir quelle est la plus grande, le jeu de l'Uno, il y a d'autres jeux, il y a des jeux collaboratifs qui peuvent être très intéressants aussi. Et d'observer ça, on voit déjà des enfants petits qui commence à très vite savoir lire les chiffres, comprendre la notion de grandeur du nombre. Et puis, à travers ça, ben, ils apprennent déjà plein de choses. Et les grands aussi, quand ils construisent, qu'ils fabriquent quelque chose, ils vont devoir aussi souvent mesurer, compter, calculer, ou alors faire des demandes, écrire, donc rédiger des courriers, rédiger différentes choses. Aussi faire des téléphones. Quand ils ont besoin de matériel, souvent ils vont devoir s'adresser eh bien, à un service ou à des adultes et poser des questions. Donc comment est-ce qu'on demande ce genre de questions de recherche? Comment est-ce qu'on fait? Et tout ça va vraiment être important pour, dans tout ce qui est des acquisitions de langue, par exemple en français, ça fait partie vraiment des acquisitions de base. Donc l'adulte va souvent déjà laisser faire et puis quand ils ont un projet, me dire ben, comment tu peux t'organiser, qu'est-ce que tu dois faire pour le réaliser, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Et puis si c'est ben, faire un téléphone, ok, il faut que je trouve du matériel, ok, tu peux demander à qui? Bien peut-être à une déchetterie ou à un centre de récupération, etc. Et alors, comment tu vas t'y prendre? Ben, il faudrait que je les contacte. Très bien, est-ce que tu te sens, toi, de faire le téléphone seul? Est-ce que tu sais ce qu'il faut demander? Et voilà, c'est un accompagnement de ce type-là. Il peut y avoir aussi, à certains moments, oui, j'ai envie de réaliser tel ou tel projet, mais je demande pas. Je viens pas poser de questions. Des fois, les petits commencent à nous tourner autour, ou même des fois les grands. À venir poser des questions sur qu'est-ce que tu fais ou à venir nous attraper par par un habit et puis tirer. Et là, il se passe déjà des choses au niveau de la demande qui est encore implicite et qui va, si l'adulte voit, il peut soutenir et observer et dire, mais là, qu'est-ce que tu essayes de me demander? Est-ce que tu as quelque chose à me demander? Qu'est-ce que ça signifie que tu me tires comme ça par les habits? Tu t'ennuies, tu as envie de jouer, tu as envie que je t'aide à faire quelque chose? Ah oui, j'aimerais bien réaliser telle ou telle chose. Ok, alors demande-le, pose la question clairement. Viens faire une demande claire. Il y a parfois des enfants, et ça on le retrouve aussi chez les adultes, hein, qui disent ben, je veux faire un mail. Ok, ben, va faire ton mail. Ce n'est pas une demande. Si tu as une demande, formule ta demande correctement. J'ai besoin d'aide pour faire un mail. Et là, il y a vraiment un soutien à ce que les choses soient claires, clarifiées pour eux, qu'on sache quand ils ont besoin d'aide ou quand ils n'en ont pas besoin. Je veux faire un mail, ok. Alors, va le faire. Mais si tu as besoin d'aide, tu peux venir demander. Mais si tu ne demandes pas d'aide, moi je ne vais pas venir vers toi et puis m'imposer dans ton projet. Donc là, déjà, ben, on voit souvent des enfants qui disent: Ah oui, mais si j'ai besoin d'aide. Ok, mais ben, alors formule-le, comment tu fais une demande claire? Ben, j'aimerais que tu m'aides pour faire un mail, très bien. Et là, ensuite, on va accompagner quand la demande est clarifiée. Ok, bah, qu'est-ce que tu veux obtenir? C'est quoi l'objectif de rédiger ce mail à qui il s'adresse? Et dans tous les projets, en fait, on va un petit peu questionner les objectifs. Tu veux savoir lire? Oui, mais savoir lire, ça veut dire quoi? Est-ce que tu veux savoir faire de la lecture déchiffrée? Est-ce que tu veux savoir lire plutôt couramment avec de l'intonation? Est-ce que tu veux faire de la lecture rapide? Est-ce que tu veux juste qu'on te lise quelque chose? Est-ce que tu veux juste écouter des choses, des livres audio ou d'autres choses? Et déjà clarifier ce qu'ils veulent. Il y avait Thomas Marshall de l'école de Dijon à l'époque qui me disait, mais en fait, si un enfant vient vers un mécanicien de vélo et qu'il a envie, qu'il s'approche et qu'il dit j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu peux m'aider? Oui, ok, que le mécanicien répond oui, ok, et puis qui commence à lui expliquer le fonctionnement, comment graisser le vélo, comment installer la chaîne, le guidon, comment régler la selle, contrôler que tout soit bien en ordre, et puis qu'en fait le problème de l'enfant, c'est juste qu'il a une roue percée et puis qu'il aimerait la réparer. Eh bien, on passe à côté de sa demande. Donc, c'est important de pouvoir clarifier vraiment la demande et le projet, l'objectif, quel est-il? Et puis ensuite, il y a tout le fait de savoir, mais ok, c'est ça que tu veux atteindre comme objectif. Donc maintenant, on va un peu structurer les choses. C'est-à-dire quel matériel tu vas pouvoir utiliser. Et là, on va montrer, est-ce que tu sais ce qui existe? Pas tout. Donc, on va montrer ce qui existe et puis on va pouvoir accompagner dans différentes possibilités, différentes manières de faire aussi, parce que si tu as un certain matériel mais que tu l'utilises une fois toutes les 3 semaines, ça va pas beaucoup t'aider. Donc on va vraiment accompagner pour tu penses que ça serait bien de faire à quelle fréquence? Et observe-toi. Est-ce que c'est suffisant cette fréquence? Est-ce que tu arrives à t'y tenir? Est-ce que tu as besoin d'aide pour t'y tenir? Est-ce que tu as besoin de te mettre une alarme ou quelque chose? Et là, on va trouver des stratégies aussi pour pouvoir soutenir l'enfant dans ce qu'il fait. Il y a ensuite tout le comment tu vas évaluer que tu arrives à ton objectif. Quand j'aurai réalisé une sortie et puis que voilà, la sortie sera finie, j'aurai atteint mon objectif. Quand je saurai lire 500 mots courants rapidement, j'aurai atteint mon objectif. Quand je pourrai atteindre un niveau d'allemand ou d'anglais qui me permette de répondre au niveau du degré A1, c'est un degré de connaissance de langue, eh bien, j'aurai atteint mon objectif. Donc voilà un petit peu des évaluations possibles. Et c'est l'enfant lui-même qui, des fois, va pouvoir observer. Est-ce que j'ai des fois il n'a pas besoin de notre aide pour s'auto-évaluer parce que je vais réaliser un repas pour le midi pour toute l'école. Il va vite voir si son objectif est atteint, pas atteint, quelle est la qualité de ce qu'il a rendu, etc. Donc il peut y avoir des retours d'autres personnes, il peut y avoir une demande de sa part, mais là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux m'indiquer aussi comment je peux améliorer les choses? Donc, ça peut être une demande, ça peut être simplement un constat de sa part, de constater là où il en est. Et donc, vraiment, c'est important pour l'adulte d'être dans cette observation, ce soutien, cette clarification, cette planification. Et puis, le fait de permettre à l'enfant de constater ce qu'il a réalisé. Et parfois, ce sera aussi de constater avec lui ce qu'il a déjà fait pour de nouveaux projets. Et puis, lui permettre de dire, mais là, tu as déjà réalisé telle ou telle chose et tu peux t'appuyer sur ces choses pour poursuivre un autre projet du même ordre. Et il y a des choses que tu sais déjà faire. Rappelle-toi quand tu avais dû faire le téléphone, comment ça s'était passé. Et voilà un peu une façon d'accompagner et de soutenir les apprentissages. Il peut y avoir aussi des fois le fait d'observer l'enfant dans sa difficulté et de voir à quel moment il va ou non demander de l'aide. Et puis ça peut être, je pense à des enfants aussi qui ont des difficultés de s'approcher de d'autres et puis de s'inclure dans un groupe ou différentes difficultés. Et en fait, ils vont rester à l'écart, se plaindre, se montrer de la tristesse ou de la colère. Et en fait, ils vont pas formuler les choses quand on leur demande si ça va. Ouais, mais les autres, ils veulent pas, etc. Est-ce que et là, on va les amener à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe pour les autres? Est-ce que les autres ils veulent pas ou est-ce que il y a autre chose qui peut être la cause du fait que tu te sentes pas inclus dans le groupe ou qui te disent non à certains moments? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Non, c'est pas OK pour moi. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Donc là, on peut dire aussi amener l'enfant à voir avec lui, Est-ce que tu serais d'accord qu'on en discute avec la famille, avec tes parents, pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de comprendre si il y a une possibilité pour t'aider davantage à mettre en place les choses pour que tu te sentes mieux et que ça se passe mieux pour toi. Donc il peut y avoir aussi vraiment ce soutien autour de la famille et puis la mise en route d'un accompagnement plus large pour voir si l'enfant ne comprend pas d'où vient sa difficulté, si l'enfant ne voit pas ce qu'il peut faire d'autre et puis comment il peut s'y prendre pour vraiment élargir. Et des fois c'est même un besoin extérieur, un soutien extérieur qui sera nécessaire. Parce que ça n'est pas du ressort de l'école, mais c'est plutôt du ressort d'une thérapie ou de quelque chose de ce type-là. Donc là, les accompagnants vont aussi soutenir la famille, soutenir l'enfant, et dans la mise en route d'un accompagnement d'ordre plus thérapeutique, plus axé sur certains apprentissages, soit sociaux, soit des apprentissages des domaines disciplinaires comme la lecture ou les mathématiques ou d'autres choses, ou des apprentissages praxiques, comme on dit, c'est-à-dire le fait de pouvoir se débrouiller à faire certains gestes du quotidien plus facilement tout seul, parce que certains enfants ont besoin vraiment d'aide à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu. Pour mieux comprendre comment les enfants sont accompagnés dans ces écoles, mieux comprendre aussi le rôle de l'adulte. Et bien entendu, il y a tout ce qui est du pédagogique. Quand un enfant dit qu'il souhaite apprendre des maths, ou alors si on lui propose et qu'il accepte, eh bien là, on pratique en fait comme de l'enseignement traditionnel, où on va amener le thème, amener des outils. Lui proposer des jeux, des choses pour qu'il puisse répéter, réactiver, pour pouvoir vraiment ancrer dans la mémoire à long terme des savoirs, des connaissances, et aussi soutenir le fait qu'à un moment donné, il puisse les partager avec le groupe et peut-être apprendre à quelqu'un d'autre ce que lui-même a appris, et ça va grandement l'aider à vraiment intégrer les connaissances. Donc voilà. Au niveau de l'accompagnement, et souvent ça se fait en individuel, puisque les enfants ne sont pas tous au même endroit. Maintenant, il y a des enfants, tant qu'ils ont besoin d'avoir l'adulte pour acquérir de nouvelles notions, ou si c'est difficile encore pour eux, parce qu'il y a plein de notions qui peuvent être aussi acquises par le biais des médias sociaux, en fait, ou d'Internet, où il y a plein de cours disponibles. Mais parfois, c'est toujours intéressant d'avoir encore l'adulte, surtout les petits, mais les plus grands peuvent déjà bien se débrouiller, devenir autonomes. Donc là aussi, on va peut-être aussi, en tant que facilitateur, mettre un peu les freins, parce qu'on voit aussi que certains jeunes souhaitent accaparer l'adulte et puis de le prendre en fait comme précepteur et puis comme enseignant particulier. Et ça, c'est pas OK non plus. Il faut apprendre aussi à un moment donné, quand je t'ai donné les clés pour que toi tu puisses commencer à faire tout seul et puis t'en sortir, tu viens me chercher uniquement si tu as vraiment un souci et puis que tu n'y arrives plus seul et que ça fonctionne plus tout seul. Et là, c'est aussi vraiment très important de mettre cette limite et de ne pas se faire accaparer par l'enfant comme un soutien à ce qu'il ne puisse plus, lui, organiser les choses seul. Et puis, à un moment donné, il devrait pouvoir y arriver aussi seul. Et c'est le cas aussi pour certains qui y arrivent, on le voit. Et toujours des enfants, encore, qui, de leur côté, on va peut-être les laisser aussi à certains moments. Comme ils mettent en échec tout le soutien, ce qu'il y a autour, qu'on peut les soutenir, les accompagner, ils arrivent souvent à mettre en échec, pour certains, pas tous, hein, mais certains sont beaucoup dans la mise en échec de ce que l'adulte amène. Et là, on va juste observer, où en est l'enfant, puis réguler avec l'accompagnement et l'accord de la famille, pour voir jusqu'où on le laisse en fait. Tout mettre en échec, et puis pour finir, on va plus lui proposer de choses et on va lui laisser, lui, le fait d'être en échec ou de peut-être ne pas l'être tout d'un coup si il y a moins d'entourage, moins de soutien, sentir que en fait ça se dérobe un peu sous ses pieds et que là c'est à lui de maintenant prendre les choses en main et de mettre en place en fait ce qui peut lui servir pour parvenir à avancer dans sa vie, à avancer dans son parcours, dans ses projets. Donc il peut y avoir des moments aussi comme ça un peu difficiles et pour les parents et pour les facilitateurs. C'est souvent plus facile pour les facilitateurs qui ont confiance dans le processus et que ça va bouger. Pour les parents, c'est toujours une étape un petit peu difficile de se dire mais à quel moment ça va peut-être bouger de son côté et puis qu'il décidera de plus mettre en échec. Je pense, alors c'est, j'ai encore pas vu pour le moment des enfants qui mettaient en échec sur du très 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 long terme. On est aussi assez jeune hein, au niveau de l'école, mais souvent il peut y avoir des enfants qui mettent en échec pendant un an et demi, même 2 ans, et puis au bout des 2 ans, ça bouge. Et ça paraît énorme pour les parents. Pour les facilitateurs, ça peut aussi des fois paraître énorme. Mais en fait, si on se dit que ben, peut-être au lieu de faire un métier à 16 ans, ben, il commencera à 18 ans. Et qu'en fait, je vois des amis autour de moi qui ont des jeunes de 21, 22 ans qui n'ont toujours pas de formation et puis qui sont toujours perdus et qui ne savent pas quoi faire. Est-ce que peut-être finalement ces 2 ans de latence où ben, c'est un peu englué et l'enfant évolue mais peu ou pas, ou régresse, ou va mal, est-ce que c'est pas un service à lui rendre que de le laisser un peu dans ce mal-être pour lui donner la possibilité, lui, de tout d'un coup trouver de façon intrinsèque à l'intérieur de lui la force nécessaire pour se mettre en route et décider cette fois-ci de lui faire les choses et d'accepter le soutien de l'extérieur pour l'aider. Donc voilà, c'est souvent des mises en échec difficiles aussi qui sont une confrontation à la réalité de la vie, à la réalité de la société, mais en même temps en sachant que ben, y a toujours un filet de réception au fond, et que dès qu'il y a un déclic qui se fait et qu'il comprend qu'en fait il peut retomber dans le filet, et puis que là on va juste ça va le renvoyer, le faire rebondir de manière assez vigoureuse pour qu'il retrouve son aplomb, eh bien c'est quand l'enfant voit ça, il prend cette opportunité et là ça fonctionne à nouveau. Voilà un petit peu pour le type d'accompagnement, le soutien parents-enfants que donnent les facilitateurs dans des écoles aux apprentissages libres, en tout cas dans celles que je connais. J'avais envie de vous partager tout ça. J'espère que ça vous apporte un éclairage. Et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.